En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'Académie des sciences morales et politiques, à l'initiative de l'académicien Jean Béchler, a organisé un colloque international sur le thème de la guerre et de la société le 17 et 19 janvier 2013, grâce au soutien de la Fondation Simone et Cino del Duca, abritée au sein de l'Institut de France. Une vingtaine de participants se sont réunis autour du thème spécifique de la guerre et de la politique. Le premier volet d'une démarche scientifique interdisciplinaire qui durera 3 ans. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la communication de Pierre Briand, professeur honoraire au Collège de France. Son intervention s'intitule « La guerre et la paix au Moyen-Orient, de Cyrus à Alexandre ».
Je voudrais tout d'abord remercier M. Béchler de l'honneur qu'il me fait en m'invitant à participer à ce colloque. Et bien entendu, je ne puis répondre à son attente qu'en vous parlant d'une civilisation à laquelle j'ai consacré l'essentiel de mes efforts, à savoir l'Inde ancienne. Je ne me dissimule pas que cette expression est peu rigoureuse et fort critiquable. Pour faire vite, je dirais que j'ai à l'esprit l'Inde entre 500 avant et 1000 après Jésus-Christ. Mais pour aborder cette Inde du passé, je me référerai d'abord à un événement du XXe siècle. En juillet 1947, au moment de l'indépendance, les fondateurs de l'Union indienne ont voulu donner un emblème au nouvel État. Leur choix s'est porté sur le chapiteau au lion qui couronne le pilier de Sarnath près de Bénarès. Pourquoi ce choix ? Principalement parce que cette colonne de grès a été façonnée et érigée sur l'ordre de l'empereur Ashoka. Ashoka en sanskrit, Ashoka en moyen indien. Ashoka est certainement la figure la plus prestigieuse de toute l'histoire indienne. Figure complexe qui suscite l'admiration des Indiens pour des raisons diverses. D'abord, à la suite de son grand-père Chandragupta le Maurya, contemporain d'Alexandre, Ashoka est le premier personnage proprement historique de l'Inde. C'est à lui qu'on doit les premiers témoignages de l'écriture en Inde. Et quels témoignages ? Une série de longues inscriptions en diverses formes de prakrit, gravées sur des rochers ou des piliers, sur une aire de dispersion qui couvre tout le territoire du sous-continent, ou presque, sauf la pointe, l'extrême pointe du sud. Ces inscriptions font que nous connaissons le personnage d'Ashoka avec beaucoup plus de précision que tous les souverains de l'Inde ancienne venus après lui. En effet, ces édits, gravés sur rochers ou sur piliers, exposent les mesures qu'il prend pour rendre plus pure, plus vertueuse la vie de ses sujets, pour prôner la tempérance, la non-violence, la compassion, la tolérance. Nous apprenons que, sacré empereur en 260, à Pataliputra, le Patna d'aujourd'hui, il eut à réprimer une révolte dans le Kalinga, c'est-à-dire dans l'état actuel de l'Orissa. Guerre atroce qui le bouleverse, l'amène à se convertir au bouddhisme et à formuler une critique véhémente de la guerre de conquête. Et je ne résiste pas au désir de vous lire des extraits de cet édit numéro 13 sur Rocher, qui est bien connu du reste. Voici, dans la traduction de Jules Bloch, 8 ans après son sacre, le roi ami des dieux, au regard amical, c'est ainsi qu'il se désigne. Il semble que le roi ami des dieux, ce soit un titre, et qu'au regard amical, ce soit une espèce de un nom personnel. Enfin, le roi ami des dieux, donc, au regard amical, a conquis le Kalinga. 150 000 personnes ont été déportées. 100 000 y ont été tuées. Plusieurs fois ce nombre ont péri. Ensuite, maintenant que le Kalinga est pris, ardents sont l'exercice de la loi, l'amour de la loi, l'enseignement de la loi chez l'ami des dieux, c'est-à-dire lui-même. Le regret tient l'ami des dieux depuis qu'il a conquis le Kalinga. En effet, la conquête d'un pays indépendant, la conquête d'un pays indépendant, c'est alors le meurtre, la mort ou la captivité pour les gens, pensée que ressent fortement l'ami des dieux qui lui pèse. Ceci pèse encore davantage à l'ami des dieux. Les habitants, brahmanes, samanes ou ceux d'autres communautés, les bourgeois qui pratiquent l'obéissance au supérieur, l'obéissance au père et mère, l'obéissance au maître, la courtoisie parfaite à l'égard des amis, familiers, compagnons et parents, à l'égard des esclaves et des domestiques, et la fermeté dans la foi, tous sont alors victimes de la violence, du meurtre ou de la séparation avec ceux qui leur sont chers. Même les chanceux qui ont conservé leurs affections, s'il arrive malheur à leurs amis, familiers, camarades ou parents, cela aussi est un coup violent pour eux. Cette participation de tous les hommes est une pensée qui pèse à l'ami des dieux. Etc. Eh bien, cette guerre atroce, donc, qui le bouleverse, l'amène, disais-je, à se convertir, et il l'a dit, vous avez entendu ses propres paroles, à se convertir au bouddhisme et à formuler une critique véhémente de la guerre de conquête. Or, le terme qui signifie « empire » dans son vocabulaire est « vijita », littéralement « conquête ». La profession de foi de l'empereur contient donc la condamnation de ceux-là même qui a créé l'empire dont il a hérité. Que l'empereur Asoka se soit fait bouddhiste à la suite de cette crise morale est une raison supplémentaire pour le choix que fait Nehru du chapiteau au lion. En effet, les bouddhistes sont alors, en 1947, une infime minorité. On invite ainsi de choisir un symbole propre à la tradition de la majorité hindoue, ce qui pourrait heurter la forte minorité musulmane. Un détail du chapiteau, la roue, chakra, renvoie à la figure du chakravartin, terme ambigu, qui, dans la tradition hindoue, qualifie le souverain qui a pour domaine le cercle formé par l'horizon, ou encore celui dont la roue tourne sans rencontrer d'obstacle partout où il fait rouler son char, donc le souverain universel. Dans la tradition bouddhique, le Chakravartin est aussi le souverain universel qui, à l'instar du Bouddha lui-même, fait tourner la roue de la loi. Eh bien, j'en viens maintenant, après cette référence à Asoka, j'en viens maintenant à ce qui fait l'objet principal de mon exposé, à savoir Kautilya ou Kautalya, alias Chanakya, qui lui n'est pas un prince, mais l'auteur d'un ouvrage destiné à l'instruction du prince, l'Arthashastra, traité des actes intéressés ou encore des objectifs. À la différence d'Asoka, le personnage de Kautilya, ou Chanakya, est très mal connu, bien que célèbre. La légende veut qu'il ait été le conseiller de Chandragupta, grand-père d'Asoka. Mais cette datation est aujourd'hui presque unanimement rejeté. Selon les modernes, il a pu vivre entre le 1er siècle avant et le 1er ou le 2e siècle après le début de notre ère. Son livre, pourtant, est riche en réalia. La largeur des routes, le montant des amendes, les salaires des fonctionnaires, nous savons tout cela. Et avec cela, absence quasi complète de nom propre, nul détail qui permettrait de situer le prince et éventuellement son conseiller dans le temps et l'espace indien. Nous savons comment l'armée est organisée, comment elle doit manœuvrer sur le champ de bataille, mais nous n'avons aucun récit de bataille. Abondance de données sur la tactique, rien sur la stratégie. Et nous ne disposons dans l'immense littérature indienne, l'immense corpus des inscriptions, nous ne disposons d'aucun texte qui dirait ce que l'Arthashastra ne dit pas. Il n'y a pas en Inde de Thucydide, ni de Tacite, ni de Lucain, ni même d'Hérodote. Une chose du moins est sûre. Si l'empereur Asoka règne sur un empire qui est Vijita, c'est-à-dire un territoire qui a été conquis, le prince anonyme et abstrait de l'Arthashastra n'est un Chakravartin qu'en projet. Il est désireux de conquête, cela ne lui est pas propre. Dans la tradition hindoue, depuis le Veda, tout prince est tenu d'être activement désireux de conquête. C'est là son éthos de membre de la classe des guerriers. Il n'est pas confiné à un terroir. Il ne cherche pas à s'agrandir vers des frontières naturelles ou historiques ou ethniques. Il vise par principe, par définition, la totalité. À partir du moment où le sanskrit remplace les parlers moyens indiens sur les inscriptions, les rois ont pour horizon intellectuel et pour horizon de conquête ce que Sheldon Pollock a appelé la cosmopolis sanskrite. Ce monde commun, assimilé à la terre entière, est assimilé à la terre entière, à une Inde qui aurait l'extension de la terre, et tout roi imagine qu'il pourrait en être le souverain. Dans le cas de l'Arthashastra, le but est clairement défini. Je cite 1.3.17 « Discipliné par les savoirs, le roi se plaît à discipliner ses sujets. Il jouit de la terre sans partage, trouvant son plaisir dans le bien de tous les êtres. » La notion de discipline ici est contenue dans le terme « niti », littéralement « conduite ». Or, ce terme, qui s'applique à la discipline à laquelle on se soumet pour se rendre savant, pour acquérir les différents savoirs, à laquelle on se soumet aussi pour être maître de soi, en pleine possession de soi, ce qui est un des objectifs de l'éducation du prince, et pour aussi être capable de discipliner les sujets, c'est-à-dire de les rendre aussi, pour chacun d'entre eux, maître de soi-même, eh bien, ce terme de niti, discipline, désigne également la politique, qui est le sujet même du traité. Niti, littéralement, étymologiquement, signifie la conduite. Eh bien, c'est la conduite de soi, la conduite des autres, et c'est aussi la conduite du danda, c'est-à-dire du bâton, terme dans lequel se résume toute la force ou tous les types de force dont dispose le roi pour se faire obéir et pour régner. Alors il y a niti, la politique, qui est très fréquemment spécifiée en dandaniti. Eh bien, donc, quand il est discipliné ainsi par les savoirs, eh bien, le roi peut exercer à bon escient la politique dont il a le secret, en tout cas dont il possède la technique. Et cette politique est, d'une certaine façon, le sujet même du traité. C'est par la science de la politique que le roi peut mettre les ressources du royaume au service de sa volonté de pouvoir. Et cette terre sans partage qu'il va acquérir, si vraiment il tire toutes les conséquences bénéfiques de sa discipline et de sa politique, cette terre sans partage, eh bien, elle est néanmoins contenue dans les limites classiques de la cosmopolis indienne, du cap Comorin à l'Himalaya et d'ouest en est, d'une mer à l'autre. Le roi, pour atteindre son objectif, dispose d'une puissance fondée sur Varta, c'est-à-dire les ressources de l'économie du pays, et dont c'est cette puissance qui est fondée sur Varta et qui lui permet de s'organiser, si l'on peut dire, qu'il doit du reste organiser lui-même, et cette dépendance de la politique par rapport à l'économie est une des grandes caractéristiques de la pensée de Kautilya. Eh bien, cette puissance qui repose sur une utilisation judicieuse des ressources de l'économie, eh bien, voici quels en sont les éléments constitutifs que l'on appelle prakriti. Ils sont énumérés au livre 6, chapitre 1. Voici en quoi ce qu'ils sont, ces éléments de la puissance du roi. Eh bien, c'est d'abord la personne même du roi, puis ses ministres, c'est-à-dire, de façon plus générale, l'appareil d'État. En troisième lieu, le pays et ses habitants, Janapada. Plus précisément, le pays en tant qu'il est le support des habitants. Puis, les villes fortifiées, Durga, le trésor, Kosha, l'armée, Bala ou Danda, et aussi l'allié générique. Il faut y ajouter l'adversaire, qui est très apprécié quand il est faible. Ces éléments forment un tout, mais sont cependant, on le voit dans les développements relatifs à la conduite de la guerre, ces éléments sont cependant séparables. En cas de défaite, le roi peut négocier, se résoudre à perdre tel d'entre eux, y compris son Janapada, c'est-à-dire son royaume. Et avec les moyens qui lui restent, il peut tenter d'en acquérir un autre. On remarque donc que le Janapada, en tant qu'élément de la puissance du roi, et qui pourtant désigne le pays et sa population, est une ressource et un moyen, et non pas un but. Ainsi défini par ses prakriti, les éléments constitutifs de sa puissance, le roi est défini aussi par sa position, sa localisation au centre de cercles concentriques selon un schéma très simple. Mes voisins immédiats sont mes ennemis. Ceux qui sont au-delà de ce premier cercle sont les ennemis de mes ennemis, donc mes alliés, etc. On distingue cependant les demi-cercles qui sont devant le roi et les demi-cercles qui sont derrière lui. Il est admis aussi que cette répartition ne vaut que pour les rois les plus proches. Au-delà des ennemis de mes ennemis et des ennemis de mes ennemis, eh bien, il y a des rois extérieurs au système, Udasina, ou neutres, Madhyama. Le comportement du roi conquérant, en ce qui concerne les cercles qui l'entourent, relève de la paix et de la guerre. Mais Kautilya insiste sur le fait que la paix et la guerre sont les termes extrêmes d'une série de six, que l'on appelle justement le Shadgunya, l'ensemble des six caractéristiques. Les termes médians sont se tenir quoi, se mettre en mouvement, chercher refuge auprès d'un allié plus puissant, avoir une politique double. Certains maîtres du Kautilya pensent que ces six comportements, ces six manières de faire, peuvent être ramenés à deux et que n'étant finalement que des variantes, soit de la paix, soit de la guerre. Mais Kautilya insiste, il n'y a de paix que s'il y a un traité, il n'y a de guerre que s'il y a un affrontement armé. Chacune des six manières se distingue donc des cinq autres. Notons qu'il n'y a pas de terme unique et spécifique pour guerre qui correspondrait à bellum ou polemos. Les termes qu'on utilise généralement, non seulement chez Kautilya, mais dans l'ensemble de la littérature sanskrite, et qu'ils sont nombreux, ils forment tout un ensemble, pour la guerre, désignent le choc, le combat, la bataille. Yuddha, Sangrama, Vyayama, Vigraha. L'effort agressif, le discord. Il n'y a pas non plus, dans l'Inde ancienne, semble-t-il, en tout cas pas dans Kautilya, de rite qui marquerait l'entrée en guerre, le passage à un état de guerre. En revanche, la bataille, au sens étroit du terme, exige des préparatifs rituels que Kautilya mentionne assez rapidement. En outre, les grandes batailles des épopées sont parfois, souvent même, assimilées par les protagonistes eux-mêmes et par les récitants à un vaste rituel sacrificiel. Rien de tel chez Kautilya, qui, en revanche, veut voir dans la paix et la guerre des cas particuliers de façon d'être ou de faire plus générale, repos et mouvement, jouissance et acquisition. Les racines psychologiques de la propension au combat guerrier, avidité, agressivité colérique, pourtant bien connues de la tradition indienne et de Kautilya en particulier, qui les décèle dans d'autres comportements, ne sont pas invoquées ici pour expliquer la guerre. La guerre va de soi dans la manière d'être et le plan d'action du roi désireux de conquête. Elle est conforme à sa vocation et à son statut. Le roi, selon Kautilya, reconnaît toutefois que si on peut obtenir le même gain pour la paix, par la paix que par la guerre, mieux vaut éviter les inconvénients et les risques de la guerre. Car, dit-il, à la guerre, il y a des pertes, des dépenses, l'éloignement, des obstacles. Nous sommes loin, on le voit, de la douleur véhémente qui s'exprime dans l'édit 13 d'Ashoka. Je voudrais vous lire la traduction du texte même de Kautilya à propos de la théorie, si l'on peut dire, de la guerre et de la paix. C'est au livre 6, chapitre 2. la paix et la guerre sont la matrice, yoni, de l'acquisition et de la jouissance. C'est sur des formules de ce genre que je m'appuyais pour vous dire il y a un instant que guerre et paix sont ramenées à des catégories plus larges. Alors, acquisition et jouissance, c'est yoga et kshema. Et l'acquisition a un cas particulier de l'activité d'acquisition, c'est la guerre. Un cas particulier de l'état de jouissance, c'est la paix. Jouissance de ce que l'on a acquis, bien entendu. Yoga Kshema. Le déploiement des forces, c'est-à-dire la guerre via Yama, est ce qui permet la bonne réussite des actions entreprises. Karma Arambha. La paix, Shama, est ce qui permet la bonne réussite de la sécurité dans les jouissances, upabhoga, du fruit des actions, karmapala. La matrice de la paix et de la guerre, shama vyayama, est le groupe des six modes de comportement, shadgunya, donc les six modes de comportement dont les termes extrêmes sont précisément la paix pleine et la guerre ouverte. Relève de l'humain, manusha, la bonne politique, naya, et la mauvaise politique, apanaya. Relève du divin, daiva, la chance, aya, et la malchance, anaya. C'est en effet l'action divine et l'action humaine qui font aller le monde, lokam yapayati. Ce qui est causé par un agent invisible, adrishta karita, relève du divin. Là, être uni au fruit désiré ou obtenir le fruit désiré, c'est dû à la chance. À un fruit non désiré, c'est la malchance. Ce qui est causé par un agent visible relève de l'humain. Là, l'advenu de l'acquisition et de la jouissance relève de la bonne politique, naya, et l'échec, vipatti, relève de la mauvaise politique. Cela qui relève de l'humain est pensable, chintya. Ce qui est divin est impensable. Le roi, pourvu des éléments constitutifs, prakriti, de sa personne, atman, et des éléments matériels, dravya, étant le siège de la bonne politique, nayasya adhishtana, est le roi conquérant, vidigishu. Et ensuite vient la description des cercles concentriques dont je vous ai parlé schématiquement et très brièvement. Alors, ce qui frappe aussi dans cette réflexion sur les modalités d'action comprises entre la paix et la guerre, c'est la claire conscience du Vijigishu que ses voisins, ses rivaux, ses ennemis, sont en somme dans la même position que lui, aspirent tout comme lui à régner sur la terre sans partage. L'adversaire n'est pas un barbare et les terres que le Vijigishu ambitionne de conquérir ne sont pas des lieux où il faudrait introduire comme une structure nouvelle la société selon le dharma. Faire régner l'ordre dharmique est une tâche qui s'impose dans cette partie de la cosmopolis sur laquelle règne déjà le roi conquérant. Il y a bien des populations forestières, atavi, qui sont vraiment autres. Mais justement, il ne s'agit pas chez Kautilya de les transformer. Ou de leur faire la guerre. Plutôt, il faut s'assurer leur coopération. La brahmanisation, l'expansion de la société dharmique s'y présente plutôt comme le peuplement de zones jusque-là désertes. Une formule rend compte du peu de différence entre le Vijigishu, le roi conquérant, et les siens, d'une part, et ses adversaires de l'autre. Le roi avisé, je cite, « Le roi avisé doit protéger les autres des autres, les siens des siens, les siens des autres, les autres des siens, et lui-même doit se protéger des siens et des autres. » Aussi bien, le roi dispose de forces qui trouvent à s'employer à l'intérieur du royaume aussi bien que contre l'ennemi extérieur. Ce sont les innombrables agents secrets chargés sous des déguisements les plus divers, le plus souvent sous l'aspect d'ascètes errants, chargés, dis-je, de renseigner le roi, de le servir en faisant courir le bruit qu'il est omniscient, qu'il dispose de pouvoirs surnaturels, ou chargés encore de monter des opérations de provocation, des assassinats et tout ce qui relève de la guerre secrète que le roi mène contre ses ennemis à l'intérieur, ce qu'on appelle l'élimination des épines ou la guerre silencieuse Tushnim Yudda. À l'intérieur, l'activité de ses agents se déploie en marge du système régulier de la justice et de la police qui prévoit, fait remarquable, de lourdes sanctions contre les policiers et directeurs de prison corrompus ou cruels. De même, à la guerre, le roi conquérant recourt à 1000 procédés de combat par ruse et qui vont jusqu'à des pratiques de magie, s'écartant ainsi des règles de la guerre chevaleresque énoncées dans les parties didactiques des épopées. Voit-on cependant dans ces guerres qui ne sont pas menées pro aris et focis, une forme de solidarité affective entre le roi conquérant et les troupes à son service. Eh bien, la veille du jour où il va livrer bataille, le roi rassemble son armée et les exhorte dans les termes que voici. « Je suis, dit-il, un salarié, tout comme vous, tulia vetanosmi. Il y a ce royaume, Raja, que nous allons conquérir et dont nous allons jouir ensemble. Quand je vous en aurai donné l'ordre, foncez sur l'ennemi. » Aussitôt, ces paroles sont suivies d'exclamations des brahmanes qui font partie de l'armée et qui récitent des textes védiques, lesquels enseignent que le guerrier qui meurt au combat monte au ciel aussi sûrement que les brahmanes qui auraient offert des centaines de sacrifices. Et surtout, il menace de l'enfer le misérable qui refuserait de mourir pour celui dont il a reçu une boulette de riz. Il faut rappeler ici que le salaire, vetana, dont parle le roi, est, selon une idée très communément admise, l'impôt qu'il perçoit, un sixième des récoltes, et qui rétribue son travail de protecteur de son peuple, par les voies les plus inattendues, et rappeler à la mémoire, à la mémoire de tous, ce lien fondateur. Eh bien, je crois avoir montré l'extraordinaire différence qu'il y a entre Ashoka et le roi selon Kautilya. Toutefois, cette différence qui les oppose presque totalement, comporte, laisse place à deux ressemblances très différentes. La première est d'ordre interne. c'est que Kautilya, dans sa détermination à préparer le prince à être un souverain absolu, c'est-à-dire à le transformer de roi désireux de conquête en roi qui a conquis, et qui a conquis la terre entière, eh bien, ne néglige pas de lui rappeler qu'il doit être tolérant à l'égard des différentes sectes, des différentes religions qui existent sur son territoire à côté de la majorité brahmanique à laquelle le roi appartient lui-même. Et de fait, il y a dans l'Arthashastra de nombreux développements qui précisent comment cette tolérance doit être organisée, cette tolérance qui est en même temps une sorte de coexistence. Ce qui rappelle de très près, et presque dans le vocabulaire, les prescriptions de l'empereur Ashoka. Ceci pour la ressemblance interne. Pour la ressemblance externe, voici. Ashoka, nous le connaissons par ses inscriptions qui ont été découvertes, déchiffrées, interprétées à partir de 1837 par l'effort initial d'un administrateur anglais, Princep. Avant la découverte de ces inscriptions et avant leur interprétation, Ashoka était bien connu, mais était une figure légendaire et d'une légende qui ne faisait pas de lui un personnage aussi rayonnant, aussi humain qu'il apparaît dans sa réalité historique. C'est un exemple, donc, de légende plus noire que la réalité. La réalité apporte une grande lumière sur cette figure. Eh bien, un point de ressemblance avec l'histoire d'Ashoka, c'est que Kautilya, l'auteur de l'Arthashastra, est d'abord une figure de légende, en ce sens que on lui attribue traditionnellement, comme je vous l'ai dit, le rôle de conseiller de l'empereur Chandragupta, et qu'à ce titre, il figure dans une pièce de théâtre célèbre, le Mudrarakshasa, qui date du 7e siècle ou du 6e siècle, du 7e siècle de notre ère. Mais Chanakya ou Kautilya, oui, donc l'Arthashastra, était certainement bien connu de l'Antiquité indienne, à partir du moment où le livre a été composé, bien entendu, et il est souvent cité, ou on se réfère souvent à lui. Mais le fait est qu'à partir d'un certain moment, nous ne savons pas quand au juste, le texte a complètement disparu, et on ne le connaît, pour ainsi dire, que par ouï-dire. Et, miracle, eh bien, au début du XXe siècle, voici que l'on a découvert une série de manuscrits du texte entier, et cela a donné lieu, c'est un avantage non négligeable pour nous, cela a donné lieu à tout un nouveau secteur des études de l'Inde, et cela nous a donné aussi toute une ouverture sur l'histoire de l'Asie du Sud dans l'Antiquité. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication de Pierre Briand, La guerre et la paix au Moyen-Orient, de Cyrus à Alexandre, lors du colloque international Guerre et politique de l'Académie des sciences morales et politiques, initié par l'académicien Jean Béchler. C'était le 18 janvier 2013 à la Fondation Simone Echino del Duca.